Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est maintenant l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Les propos qui comptent, les petites phrases qui font mouche, les polémiques qui ne manquent jamais. C'est maintenant donc à décrypter avec vous, Erwan Lestrohan. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. L'Ukraine percute et parasite la campagne électorale, car il est beaucoup question de l'actualité internationale dans les prises de position des uns et des autres. Finalement, les oppositions critiquent naturellement l'exécutif sur son action concernant cette guerre en Ukraine. C'est le cas de Valérie Pécresse, la candidate LR sur l'antenne d'Europe 1.
Moi, ce que j'ai reproché à Emmanuel Macron, c'est finalement d'avoir été trop tardif dans sa prise de conscience de la dangerosité de Vladimir Poutine. Vous savez, il y avait des signes avant-coureurs. La France n'y a jamais cru, mais les Américains y ont cru et nous n'y avons pas cru.
Autre candidate à s'en prendre au chef de l'État, Marine Le Pen, la candidate RN sur BFM à la mi-journée après le sommet qui a réuni les dirigeants des 27 près de Paris dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne.
Ce sommet de Versailles, a révélé la manipulation opérée par le président de la République française.
Pourquoi manipulation ?
Et ça, c'est très grave, je trouve.
Pourquoi vous
parlez manipulation ? C'est passé relativement inaperçu, mais le président de la République a répondu à deux types de médias. Des médias français à qui il a dit avec un air extrêmement sérieux et grave qu'il était très pessimiste sur l'issue des négociations, et il a répondu aux médias anglo-saxons en disant qu'il était très optimiste sur l'issue avec un grand sourire. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'en réalité le président de la République se sert de la guerre en Ukraine pour faire peur aux Français parce qu'il pense que la peur peut lui bénéficier. Et moi, je suis extrêmement sévère, parce qu'on ne manipule pas l'opinion publique avec des sujets aussi importants, aussi graves que la guerre.
Et puis cette guerre pousse des millions d'Ukrainiens à fuir leur pays vers l'Ouest, vers l'Europe. Il va falloir accueillir ces gens qui sauvent leur peau, des femmes et des enfants, alors que globalement, les hommes défendent leur patrie. Faut-il les accueillir ? La classe politique répond par l'affirmative dans son ensemble, mais il y a des critiques comme celle émise par Marine Le Pen qu'on réécoute.
Je pense que depuis des années, en réalité, on a été très laxiste et très peu regardant sur la manière dont on gérait les demandes d'asile, qui en réalité, pour beaucoup, n'étaient pas des demandes d'asile, qui étaient des demandes d'immigration économique. Comme on a été laxiste, eh bien, peut-être on se prive aujourd'hui d'accueillir précisément, dans des conditions dignes, des gens qui, pour le coup, correspondent exactement, je veux dire, au statut de réfugiés de guerre. On le voit d'ailleurs, ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées qui fuient la guerre. Mais a-t-on aujourd'hui les moyens d'en accueillir 100 000 dans des bonnes conditions, compte tenu du fait que notre pays a accueilli de manière anarchique et massive des migrants du monde entier? Ça n'est même pas sûr et c'est bien triste, parce qu'en fait, les vrais réfugiés sont du coup, je pense, les victimes du laxisme des dernières années.
Et la candidate du Rassemblement national. Alors, une mesure est annoncée, l'octroi du statut européen de protection temporaire valable pour 6 mois. En France, il sera géré par les préfets. Le candidat Reconquête, d'extrême droite, qui est Éric Zemmour, estime que c'est convenable, mais pour ajouter aussitôt...
Moi, ce que je dis, c'est que je protège aussi les Français. Il faut faire très attention aux Français. On voit déjà que, profitant de cette ouverture des frontières, il y a de nombreux Algériens, Africains qui en profitent pour venir en France aussi, qui passent les mailles du filet. Vous savez, dans le feu de l'émotion, on fait rentrer beaucoup de gens dont les Français ne veulent pas.
Éric Zemmour sur France 3. Erwan Lestrohan de l'Institut de sondage Odoxa, concernant l'accueil des réfugiés, quel est le soutien qu'apporteront les Français ?
Eh bien, ce qu'on observait dans notre dernier sondage, c'est que 77% des Français, les trois quarts d'entre eux, sont favorables à l'accueil des réfugiés ukrainiens. C'est un chiffre qui montre quand même qu'ils font preuve d'un souhait de solidarité sans aucune réserve. L'opinion est très majoritaire, quelles que soient les catégories électorales. Et on est même au-delà de la barre des 50%, à 51%, c'est une courte majorité chez les sympathisants Reconquête, et à 60% aussi de favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens chez les sympathisants du Rassemblement National.
L'immigration est traditionnellement un thème de campagne à chaque élection présidentielle, et pas seulement d'ailleurs, pour certains candidats en tout cas. Cette fois, personne ne peut faire l'impasse sur cette question.
Oui, et ça reste un marqueur très fort du clivage entre la gauche et la droite. Aujourd'hui, on a encore 3 Français sur 10 qui nous disent que l'immigration est le domaine qui comptera le plus dans leur vote à l'élection présidentielle de 2022. Alors, c'est derrière le pouvoir d'achat, mais ça reste quand même à un niveau important, sachant quand même, faut l'avoir en tête, que ça mobilise plus fortement la droite sur les questions de fermeture que ça ne mobilise la gauche sur les questions d'accueil. Mais pour autant, c'est vraiment le domaine qui sera même le plus important pour les sympathisants du mouvement Reconquête. 75% d'entre eux le disent, et 60% le disent aussi chez les sympathisants du Rassemblement National, sachant qu'on est quand même sur la ligne de crête sur ces questions, dans un pays où on a quand même 6 Français sur 10 qui trouvent que la France accueille trop de migrants.
Vous y faisiez allusion, la gauche, c'est vrai qu'il n'y a que peu ou pas de prise de parole à gauche pour accueillir ces réfugiés, pour lancer un appel à l'accueil.
Alors voilà, pour l'instant, ça se joue surtout dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle, sur la réforme de la procédure Dublin, sur la révision des conditions d'accueil sur le plan matériel et logistique, mais pour l'instant, sur cette condition de l'accueil des réfugiés ukrainiens, on entend assez peu de choses encore.
Alors, quand il n'est pas question de la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat est dans toutes les prises de parole aujourd'hui. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, déclarait cette semaine que la crise énergétique est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. En fait, cela a un rapport, puisque la guerre pousse les prix de l'énergie qui déjà montaient avant l'invasion russe, les prix montaient forcément à la hausse. Et aujourd'hui, dans les colonnes du journal Le Parisien, le Premier ministre annonce une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant. Cela à partir du 1er avril et pendant 4 mois. Les oppositions critiquent une mesure électoraliste à l'instar de Valérie Pécresse.
J'avais proposé qu'il y ait une opération transparence sur tout ce que l'État avait gagné et qu'il y ait un juste retour aux Français, c'est-à-dire qu'on rende cet argent aux Français. Donc sur le principe, je suis d'accord avec la proposition. Simplement, je ne sais pas si ces 15 centimes représentent exactement l'intégralité des gains que l'État a fait. Ça représente 2 milliards, mais est-ce que l'État n'a pas gagné plus que 2 milliards? C'est ça la question. Pourquoi au 1er avril? Pourquoi pas dès maintenant? Le 1er avril, on voit bien que c'est à 10 jours de l'élection. C'est un petit peu, la ficelle est un petit peu grosse. Il aurait fallu le faire dès maintenant.
Comment protéger le pouvoir d'achat face à la flambée des prix de l'énergie? Voici la proposition du candidat communiste sur France 3.
La guerre, on la voit tous les jours à la télévision, mais on la subit aussi dans le porte-monnaie. Donc il est important, important de protéger le pouvoir d'achat des Français, de bloquer les prix, d'arrêter la spéculation. Et pas seulement que l'énergie, mais en fait, les produits essentiels comme le blé, le maïs, tout ça, ça se joue à la bourse, à Chicago. Le gaz, alors qu'on a des contrats sur 20 ans, sur 30 ans, à prix fixe, acheté, il se joue lui aussi à la bourse. Il faut arrêter avec cette libéralisation des prix sur des matières essentielles. L'urgence pour moi, c'est de faire en sorte que 100% des bénéfices de Total de 2021 et ceux de 2022, d'ailleurs il ne doit pas y avoir de bénéfices en 2022, que tout soit consacré à la baisse du prix de l'essence et du gaz. C'est ça l'enjeu.
Fabien Roussel pour le Parti communiste français. Erwan Lestrohan, cette inflation des hydrocarbures, il s'agit d'un sujet particulièrement sensible, surtout en période électorale, depuis la crise sociale des Gilets jaunes. Alors, c'était 2018-2019, déclenché par une hausse des prix des carburants, on s'en souvient. Est-ce que leur mouvement, ces Gilets jaunes, trouve aujourd'hui un écho politique ?
Oui, de toute façon, c'est vrai qu'on le voyait dès le début de la mobilisation des Gilets jaunes. C'est un sujet concret qui touche une large partie des Français et qui les mobilise. Pendant longtemps, quand on faisait des sondages pendant les mouvements des Gilets jaunes, on avait plus de 50% des Français qui soutenaient leur mouvement. C'est quand il y a eu des débordements et des violences que le soutien a commencé à baisser. Mais c'est un sujet avec lequel les Français sont très empathiques. Ce qui est un peu paradoxal quand même, c'est que les personnes qui sont directement touchées par ces problématiques de pouvoir d'achat sont celles qui ont le plus besoin des politiques publiques, mais aussi paradoxalement celles qui votent le moins par défiance à l'égard de l'efficacité des politiques publiques. Donc il y a des attentes qui sont fortes et il y a une certaine frustration de ce qui a été fait jusqu'à maintenant.
À un mois du premier tour, les candidats de tous bords s'attachent à rester finalement au plus près des préoccupations des Français quand l'actualité leur laisse le temps et la place. Et c'est difficile.
Absolument, c'est difficile d'imposer ces thèmes dans la campagne alors même que la crise en Ukraine inquiète 9 Français sur 10, qui a un risque nucléaire qui pèse très fort dans les préoccupations des Français. Mais quand on leur demande sur les problématiques nationales quel est le thème qui comptera le plus fortement dans leur vote, c'est le pouvoir d'achat qui ressort à un niveau très élevé. Hein, 54% des Français, c'est 20 à 30 points de plus que les autres thématiques. Ça ressort à un niveau très élevé et c'est vraiment, ça décrit une présidentielle qui pourrait être celle du pouvoir d'achat, comme on a eu une présidentielle autour de l'emploi, autour de la sécurité, autour du redressement économique, autour de la fracture sociale, pour citer une présidentielle plus ancienne. Donc c'est vraiment une présidentielle qui pourrait se construire autour du pouvoir d'achat. 2 Français sur 3 ont même l'impression que cette présidentielle aura un impact sur leur pouvoir d'achat.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplin.
Tous ces thèmes, tout ce qu'on vient de dire, devraient se retrouver dans les sondages qui font une photographie à l'instant T de l'opinion. Et il y a celui que publie Ipsos aujourd'hui, l'un de vos concurrents, dans le Parisien. Ce dimanche, le président candidat obtiendrait 30,5% des intentions de vote le 10 avril prochain. Emmanuel Macron bondit littéralement de la zone des 23-24% d'avant sa déclaration de candidature. Comment expliquer ce phénomène ?
Alors, c'est un point très important, c'est qu'en fait, il bénéficie d'un double mouvement, Emmanuel Macron. C'est un mouvement en sa faveur qui est le renforcement de sa stature présidentielle sur fond de crise internationale qui inquiète fortement les Français, mais aussi, dans un autre sens, une certaine ringardisation des candidats qui le suivent dans l'élection présidentielle parce qu'ils ont eu des positions un peu ambiguës vis-à-vis de la Russie. Le point le plus étonnant, c'est peut-être que Valérie Pécresse ne soit pas non plus le réceptacle de cette déception à l'égard d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. En tout cas, Emmanuel Macron voit non seulement sa stature se renforcer, mais aussi son poids électoral dans les rapports de force.
Et cela au-delà de sa base électorale. Odoxa a publié lundi dernier une enquête pour LCP et Public Sénat.
Oui, alors, même une enquête plus récente qu'on a fait pour le Figaro, là, en fin de semaine, 47% des Français jugent qu'Emmanuel Macron a un bon bilan en tant que président, et c'est une opinion qui est partagée par une personne sur deux, chez les sympathisants PS, chez les sympathisants Europe Écologie Les Verts, chez les sympathisants LR. Aujourd'hui, quand on demande est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron soit élu président de la République, 44% des Français nous disent oui, tout comme 59% des sympathisants PS, 44% des sympathisants Europe Écologie Les Verts. Donc on est à un niveau de soutien de l'action présidentielle qui dépasse les frontières de La République En Marche, ce qui ressemble quand même à un pari gagné pour Emmanuel Macron.
Dans ce sondage Ipsos, les autres candidat Marine Le Pen s'affirme pour la qualification au deuxième tour, 16%. Elle creuse l'écart avec Éric Zemmour qui est à 13,5%. Cela dit, compte tenu de la marge d'erreur, je crois qu'il est de 3%, la marge d'erreur est de 3%, il peut rêver, Éric Zemmour, finalement, lui aussi d'être en finale.
Alors, il peut tout à fait y prétendre, tel que l'indiquent les sondages aujourd'hui. En revanche, ce qu'on observe quand même comme mouvement, c'est plutôt une tendance à la baisse d'Éric Zemmour et une tendance à la hausse de Marine Le Pen, avec, chez Marine Le Pen, dans sa base électorale, un retour d'électeurs qui s'étaient dirigés vers Éric Zemmour. On observe par exemple un gain de Marine Le Pen auprès des gens qui avaient voté pour elle au deuxième tour en 2017 et qui s'étaient dirigés vers Éric Zemmour. Donc elle reconstitue en fait sa base électorale de personnes qui ont peut-être été déçues par des prises de position d'Éric Zemmour ou qui se disent peut-être que cette candidature n'est pas susceptible de se hisser au second tour.
À gauche maintenant, Erwan Lestran, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au-dessus du lot, 12% alors que Yannick Jadot fait deux fois moins et Fabien Roussel 3% seulement.
Voilà, alors c'est un peu paradoxal pour Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'on observe une dynamique positive pour le candidat de la France insoumise, en même temps que 30% des Français nous disent que la crise russe a détérioré l'image qu'ils avaient de Jean-Luc Mélenchon. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que cette petite dynamique positive le concernant, elle vient probablement d'un réflexe de vote utile ou de vote efficace, on peut l'appeler un peu comme on veut. En tout cas, il va devoir créer un peu plus d'adhésion et peut-être aller récupérer des électeurs de Fabien Roussel s'il veut rééditer sa performance de 2017, voire pourquoi pas se placer en position d'accéder au second tour.
Quant à la candidate LR, Valérie Pécresse, elle dégringole à un maigre 11%.
Voilà, tout à fait. Et ce qu'on observe, c'est que... Alors, on a même observé des sympathisants LR qui se dirigent vers la candidature de Marine Le Pen. Ce qu'on voit, c'est qu'on est à une tendance vraiment à la baisse de Valérie Pécresse qui était montée jusqu'à 19% après sa désignation à l'issue du congrès Les Républicains. Et ce qui est à signaler, qui montre que la dynamique est difficile à trouver, c'est qu'elle n'est pas le réceptacle de la crise. C'est un parti de gouvernement. Pourtant, c'est vrai qu'en général, on voit que les partis de gouvernement bénéficient de ces mouvements d'émoi nationaux. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'elle a plutôt tendance à se situer dans une baisse.
Autre chiffre, celui de l'abstention. Elle pourrait battre le record du 21 avril 2002, titre aujourd'hui en France, citant le politologue Brice Teinturier. Marine Le Pen exhorte ses électeurs à ne pas s'abstenir malgré la guerre en Ukraine, malgré la petite musique, dit-elle, d'une réélection du président candidat.
Tout ce qui est fait aujourd'hui vise en fait à démoraliser le peuple français en lui disant bah, « c'est même plus la peine d'aller voter, regardez, Emmanuel Macron sera réélu, là ça y est, c'est gagné, c'est plié ». Donc on cherche à les démoraliser, on cherche à les démobiliser et on cherche en fait à débrancher le peuple de France de cette élection. Et moi je viens leur dire exactement l'inverse, peuple de France, saisis-toi de cette élection, car si tu ne défends pas tes propres intérêts, personne ne les défendra pour toi.
La candidate RN sur France 3 tout à l'heure. Alors Julien Chavanne du service politique de RFI, les Français pourraient se désintéresser d'un scrutin joué d'avance. C'est le scénario catastrophe pour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. La candidate du Rassemblement national a en tête la désertion de ses électeurs au dernier régional. Les catégories populaires, le cœur de son électorat, sont les plus volatiles. Alors entre une guerre en Ukraine et un président candidat qui n'a pas besoin de faire campagne pour être donné gagnant dans les sondages, les Français pourraient se dire que la présidentielle est déjà pliée. À moins d'un mois du premier tour, difficile de s'intéresser à cette campagne en apesanteur, où rien d'autre ne s'impose à part l'Ukraine.
Emmanuel Macron a pourtant dit aux parlementaires de son propre camp que rien n'est joué.
Oui, mais c'était davantage un message interne à ses troupes pour ne pas se démobiliser. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron refuse de descendre dans l'arène pour l'instant. Pas de débat, pas de meeting, pas d'interaction directe avec ses rivaux, ce qui les fait d'ailleurs enrager. Éric Zemmour a par exemple accusé le chef de l'État de vouloir confisquer le débat et de priver les Français d'une vraie campagne.
Alors, est-ce que les débats à la télévision pourraient changer la donne ?
C'est vrai que ces débats sont souvent très suivis par les téléspectateurs. Éric Zemmour et Valérie Pécresse y sont prêtés cette semaine. D'autres émissions sont prévues, mais la plupart sans confrontation entre les candidats. Ils ne feront que répondre aux questions les uns après les autres. France 2 essaie d'organiser un vrai débat à la fin du mois, mais tout dépendra d'Emmanuel Macron. Si le président sortant y participe, ses concurrents en seront. Sinon, on ne fera pas face aux autres, prévient catégorique un conseiller de Marine Le Pen.
Alors, une campagne suspendue, des électeurs qui n'ont pas la tête à la politique, quelles seraient les conséquences d'une abstention élevée à cette présidentielle ?
Un problème de légitimité, bien sûr. Gagner une élection, c'est bien, mais si une faible majorité des électeurs est allée aux urnes, difficile ensuite de se présenter comme le président qui peut rassembler le pays. Certains candidats prédisent déjà le retour des Gilets jaunes. Ces manifestants dénonçaient un système démocratique qui ne les représentait plus. Un chef de l'État mal élu pourrait donc rallumer cette mèche.
Alors, il reste encore 4 semaines avant le premier tour. C'est court et c'est long à la fois. Est-ce qu'il est encore possible d'intéresser les électeurs ?
Oui, si les Français désertent les scrutins intermédiaires, la présidentielle et l'élection reine, plus de 78% de participation en 2017. Et puis les sondeurs le constatent, les électeurs font leur choix de plus en plus tard, parfois dans la dernière semaine. Même très très courte, une vraie campagne pourrait avoir lieu.
Analyse de Julien Chavanne du service politique de RFI. Erwan Lestrohan, directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa, votre commentaire, votre évaluation sur l'abstention.
Eh bien justement, nous sur l'abstention, on l'évalue autour de 25%. Aujourd'hui, ça se rapproche du niveau record de 2002 qui était de 28%. Avec une similitude, c'est que les sondages annonçaient, alors à tort en 2002, un casting de second tour équivalent à celui de la précédente élection. C'est-à-dire qu'on retrouvait le couple Chirac-Jospin. Donc c'est aussi ce sujet qui est important à avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, 8 Français sur 10 pensent qu'Emmanuel Macron va être élu président de la République. Et dans un scénario qui semble écrit à l'avance, c'est vrai qu'on a un risque de participation différentielle, c'est-à-dire que les électeurs des camps qui sont donnés perdants pourraient ne pas aller aux urnes étant donné qu'ils pensent que l'élection est déjà jouée. Et ça concerne plus fortement les profils les plus abstentionnistes qui sont les électeurs de Marine Le Pen qui en avaient déjà pâti aux élections régionales, qui est assez haute chez les jeunes, chez les employés et les ouvriers, chez les foyers à bas revenus. Ça touche aussi les partis comme Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise qui ont un électorat jeune. C'est vrai que cette participation différentielle, cette démobilisation de l'électorat face à un scénario qui semble écrit d'avance, il faut l'avoir en tête, c'est une possibilité.
Et quels que soient les enjeux, c'est ça qui est incroyable.
Alors, c'est moins une question d'enjeux qu'une question de choix électoraux qui seront opérés. Le grand moment démocratique qu'est l'élection présidentielle, faut qu'elle rencontre aussi le vote pour un projet. Aujourd'hui, on se demande vraiment, est-ce que ça va être une réélection, une reconduction ? Et c'est tout l'enjeu aussi des débats. Aujourd'hui, 68% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron participe à des débats avant le premier tour avec les autres candidats, parce qu'il y a une vraie volonté d'examiner les propositions des candidats. Et c'est aussi tout l'intérêt pour les candidats, c'est d'être élu légitimement sur la base d'un projet.
Merci pour ces analyses et commentaires. Erwan Lestrohan, directeur d'études à l'Institut de sondage Odoxa. La politique encore sur RFI. Demain matin, l'invité de la rédaction à 7h20 sera Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. C'était Dimanche politique, réalisé par Valentin Vanner.